Bonjour à tous et bienvenue dans ce 128e épisode de Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise de l'énergie avec quelqu'un que je suis ravie d'accueillir dans l'émission, Loïc Leflotte-Prigent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis la sortie du confinement, le monde fait face à une hausse des prix de l'énergie spectaculaire. En France, les prix du carburant, du gaz et de l'électricité ont littéralement flambé, ce qui a des conséquences dramatiques pour les familles aux revenus les plus modestes. Les réponses du gouvernement aux envolées des prix, avec notamment le chèque inflation et le bouclier tarifaire sont-elles à la hauteur? Le mal n'est-il pas plus profond et n'est-ce pas toute la politique énergétique de la France qui serait à revoir pour pouvoir relancer l'économie? Autant de questions que nous allons aborder avec l'ancien capitaine d'industrie Loïc Leflotte-Prigent. Monsieur Leflotte-Prigent, vous étiez notamment président d'Elf Aquitaine, également président de Gaz de France, et vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti récemment aux éditions Elitel pour une France industrielle. Alors, je vais tout de suite attaquer sur les hausses du carburant. Pourquoi le prix du carburant augmente-t-il?
Alors, il y a eu deux phénomènes. Le premier, c'est une certaine baisse de l'exploration et de la production au cours des années qui viennent de s'écouler, parce que les fossiles, d'une façon générale, sont attaqués par la politique d'écologie qui gravite dans les pays dans les pays développés. Donc, on a un problème de financement des explorations et des productions. Donc, a priori, on a moins de pétrole et moins de gaz. Puis, pendant le même temps, on a eu la crise du Covid qui a conduit à ce qu'il y ait moins de demandes. La relance qui a suivi la reprise a conduit à ce qu'il n'y avait pas suffisamment de produits. Donc ça a augmenté. Mais les régions qui auraient pu produire plus et qui, comme l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient ou la Russie, qui auraient pu servir en disant, bah, écoutez, puisque vous avez une demande, on y va, ces gens-là qui ont été massacrés médiatiquement depuis quelques années en disant les fossiles c'est fini, les fossiles c'est fini, les fossiles c'est fini, disent ben, on va en profiter pour maintenir un peu le robinet pas complètement ouvert de façon à ce que les gens souffrent un peu et se rendent compte de l'utilité des fossiles, et en particulier du pétrole et du gaz. Il faut se souvenir que 80% de l'énergie fournie au monde entier aujourd'hui est d'origine fossile, une partie importante du charbon, l'autre partie du gaz et du pétrole, et que, effectivement, la politique qui est suivie, qui attaque les fossiles en général, est une politique suicidaire pour l'ensemble du monde industriel, mais et du monde développé, mais que cette politique semble être intéressante pour se faire élire. Voilà. Donc, nous sommes donc aujourd'hui dans cette politique absurde de mon point de vue, qui conduit à ce qu'il y a renchérissement des produits énergétiques et problème pour l'industrie et pour les consommateurs, problème sur lequel on va revenir peut-être un par un, parce que ce qui arrive au pétrole, ce qui arrive au gaz et ce qui
Tout est
arrive à
lié.
l'électricité, c'est lié, mais ce n'est
Bien
pas
sûr.
complètement la même chose.
Tout à
Alors, on peut
fait.
prendre le problème
Alors, on va d'abord prendre
des
le
autres.
problème du carburant, puisque le
Ah oui.
gasoil est passé quand même de 1,27 € au mois de janvier l'année dernière à 1,55 € là en ce moment. Le samplon 95 de 1,36 à 1,63 €, c'est quand même impressionnant. Quand on pense que les gilets jaunes étaient avant le confinement sur les ronds-points alors que le carburant était beaucoup moins cher par rapport à maintenant, la situation est quand même dramatique.
Alors, vous savez que l'essentiel du paiement à la pompe pour le consommateur, c'est des taxes de l'État. C'est le maximum, c'est-à-dire que c'est 60, 65, 70. Donc le fait d'avoir une augmentation à la pompe, ça profite majoritairement à l'État. Et disons que en ce qui concerne le distributeur pétrolier dont on attaque sans arrêt l'existence et la malhonnêteté, c'est de l'ordre de 1 centime par litre. Donc le distributeur, celui chez qui vous allez, si jamais il a 1 centime par litre, il est content. Et à l'heure actuelle, un certain nombre de grandes surfaces, les grandes surfaces françaises, 60% de la distribution, la plupart des grandes surfaces font à prix coûtant. Donc ils ont enlevé un
C'est ça.
centime. Vous ne voyez pas forcément, les gens ne vont pas forcément considérer que ça a été magnifique de gagner un centime. Enfin, c'est ça qui se passe. Donc nous faisons avec les taxes diverses et variées et la TVA le bonheur des finances publiques. Et par ailleurs, ces finances publiques sont liées quand même aux dépenses énergétiques en général, et les dépenses énergétiques qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui par les taxes sur l'électricité dérivent sur le pétrole. Donc aujourd'hui, nous payons une partie des énergies renouvelables sur les taxes pétrolières à la pompe. Donc il y a deux choses qui se passent. Voilà.
Alors, le gouvernement, pour aider les Français à surmonter cette augmentation considérable du prix du carburant, a décidé de donner un chèque, d'abord qui s'appelait carburant, puis qui s'est appelé inflation, de 100 euros aux familles, enfin aux Français qui gagnent au moins de 2000 euros net par mois. Alors, ça n'aurait pas été plus juste et plus simple de diminuer les taxes?
Bah oui, mais ils n'ont pas envie de diminuer les taxes. Et ça que finalement, parce que ceux qui utilisent beaucoup leur voiture ou leur camion, ceux-là seraient bénéficiaires plus que les autres. Alors du coup, on a pris une mesure anti-inflation qui fait que ceux qui n'ont pas de voiture bénéficient de 100 euros par an alors qu'ils n'ont pas de voiture. Mais c'est très bien, enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Mais
Alors, ce que vous
tout
avez
ça,
appelé ça d'ailleurs dans un article, la
cette
prime à
politique
la
n'a aucun sens.
sédentarisation. Vous avez appelé ça, j'ai
Voilà.
trouvé ça intéressant, la prime à la sédentarisation, c'est-à-dire que si vous roulez pas, ben c'est tout bénéfice.
Et si vous n'avez pas de voiture, c'est encore mieux. Et
C'est
donc, vous
encore mieux.
apercevez que dans la politique automobile aujourd'hui, les gens n'osent plus changer de voiture parce qu'ils ne savent pas laquelle prendre. Et puis, finalement, on leur dit de ne pas les prendre, mais que ça va être de plus en plus difficile dans les métropoles, etc. Et donc, on dit, ça va être affreux, je vais arrêter de prendre ma voiture. Et puis après, les concessionnaires automobiles pleurent et par conséquent, on leur donne quelques milliards pour qu'ils arrêtent de pleurer. Voilà, c'est la politique, ce qu'on appelle une politique de gribouille. Et c'est cette politique de gribouille qui est appliquée aujourd'hui.
Alors, on a une question de Jérôme Flassayer, qui est directeur de l'innovation chez Volvo Trucks, qui nous dit que le prix du baril de Brent est aux alentours de 75 euros avec un prix à la pompe au plus haut, alors que nous avons connu des cours beaucoup plus hauts, notamment en 2008 et 2010-2014, avec un prix à la
Absolument.
pompe beaucoup plus bas. Pouvez-vous nous
Absolument. Donc,
expliquer?
on a augmenté de très peu le prix du pétrole. C'est-à-dire qu'avant la crise, c'est 70. Aujourd'hui, c'est entre 75 et 80. Et par conséquent, cela ne justifie pas l'augmentation des prix. L'augmentation des prix est directement liée à la politique de l'État pour gagner un argent qu'ils n'ont pas par ailleurs. C'est clair.
Donc,
Mais il n'y a pas. Enfin, il suffirait qu'il y ait des journalistes qui fassent des calculs pour s'apercevoir que la vérité de ce que je dis. Mais comme ils n'ont pas envie et qu'ils ont envie de dire c'est merveilleux parce que ceux qui vont arrêter de prendre leur voiture vont être des bons citoyens parce que prendre la voiture c'est mal, puisque nous en sommes là. Il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il ne faut pas. Et là, on est dans cette politique de décroissance et tout le monde est content de cette politique de décroissance.
alors en fait, cette mesure, en quelque sorte, serait aussi pour favoriser la transition énergétique, décourager en fait les
Transition
véhicules thermiques.
énergétique. C'est ça. Donc l'idée générale, c'est que le véhicule thermique, c'est fini, et qu'on va passer au véhicule électrique. Bon, cette idée est fausse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un nombre de voitures extrêmement élevé thermiques. Ces voitures thermiques sont à la fois dans les pays développés comme le nôtre et vont rester encore pendant 10, 15 ans ou 20 ans, quoi qu'il arrive, même si vous refusez d'en vendre, celle-là résiste. Et puis, dans tous les pays qui n'ont pas d'électricité, et il y en a beaucoup, eh bien, les véhicules thermiques vont se poursuivre. Donc, tout ça, c'est une politique parisiano-centrée. C'est-à-dire, à Paris, j'ai envie d'avoir des véhicules électriques parce que ça pollue moins. C'est exact. Maintenant, est-ce que ces véhicules électriques sont la solution ? La réponse, ma réponse, c'est non, ce n'est pas la solution. C'est également souvent, lorsqu'on pose la question à M. Tavares, président ex-Peugeot, maintenant Stellantis, c'est la réponse de Carlos Tavares. Je suis d'accord avec lui. Non, ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution. Il va y avoir plus de véhicules électriques à cause de la pollution des villes, mais dans les campagnes, je ne vois pas l'intérêt de prendre des véhicules électriques, même si un certain nombre de campagnards ont des prises de courant et des garages, ceux qu'on n'ont pas les citadins. C'est le paradoxe, c'est que c'est plus facile d'aller faire des véhicules électriques en la campagne, mais c'est complètement idiot d'en faire en campagne. Bon, et puis par ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas de développement électrique, par conséquent, qui ne seront pas en mesure, ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de pouvoir charger leur téléphone aux prises électriques dans leur pays, ils ne vont pas en plus essayer de prendre des véhicules électriques pour rouler en véhicule électrique. Donc, je pense qu'on va avoir une cohabitation importante, qu'il y a une nouvelle génération qui va prendre des véhicules électriques. Il faut accompagner cette génération en augmentant la production électrique, mais que cette espèce de dérive vers un problème, une solution qui est orchestrée aujourd'hui par la presse, par les politiques, par l'écologie politique est complètement absurde et cela ne se fera pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on va s'apercevoir que ce n'est pas la solution, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions, peut-être des biocarburants, comme vous avez dit tout à l'heure, l'hydrogène qui va être une solution, etc. Il va y avoir d'autres solutions et la solution pétrole va rester parce que nous avons du pétrole pour 150 ans au moins et nous allons continuer à avoir du pétrole et du gaz, quoi que les gens en disent et quelques violoncelles que l'on joue. Et les gens qui ont du charbon vont continuer à utiliser le charbon parce que c'est moins cher et ils vont continuer à polluer. Et la seule façon d'éviter qu'ils polluent beaucoup, c'est d'enlever le charbon personnel pour passer au charbon de centrale. Et c'est ça que l'Inde doit faire. Et quand l'Inde fera ça, elle aura 95% de moins de pollution parce que la pollution indienne, c'est une pollution du charbon personnel, du charbon par ménage, du charbon par appartement et non pas un charbon de centrale.
Bon, cela dit, pas besoin d'aller en Inde pour avoir du charbon. Nos voisins allemands utilisent aussi des usines à charbon pour produire de l'électricité. Donc, c'est... voilà. Ben voilà. Alors, on reviendra sur le sujet. Mais on va d'abord parler de ce qui concerne immédiatement les Français. C'est maintenant les hausses également en parallèle du carburant, comme si ça ne suffisait pas. Mais c'est lié de l'électricité et du gaz. Cette hausse absolument incroyable, le gaz c'est 57% en plus depuis le 1er janvier, l'électricité on est passé de 120 euros le mégawatt-heure à 190 euros en 10 ans. Cette augmentation considérable a pour conséquence de créer une précarité énergétique pour beaucoup de Français de la classe moyenne. D'ailleurs, la pauvreté a augmenté de 15%, là ce sont les Restos du Cœur qui ont communiqué. Là, comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a bien sûr, on l'a
vu tout à l'heure. C'est simple, c'est simple. Le prix de l'électricité a augmenté à cause des énergies renouvelables qui sont trop chères parce qu'elles sont intermittentes. C'est tout. Donc, on a créé un marché d'électricité qui est parfaitement artificiel, qui conduit à avoir des acheteurs sur le marché, des prix de gros et une sorte de bourse de l'électricité. Nous produisons, nous, avec le nucléaire, une électricité à 32 euros le mégawatt-heure et nous le rachetons sur le marché de gros pour nous à 120 à 200 euros le mégawatt-heure et nous le vendons à peu près à ces prix-là. Donc c'est absurde, c'est-à-dire que si jamais nous revenons au monopole précédent avant le marché européen, nous partons sur un prix de 32 euros le mégawattheure nucléaire, à peu près le même sur l'hydroélectricité, ce qui fait 85% de la production électrique, et par conséquent, nous sommes sur un prix raisonnable pour le consommateur. À partir du moment où nous voulons absolument payer, non seulement pour nous, mais pour les Allemands et pour les Danois et pour tout le monde, les énergies renouvelables, qui sont des énergies intermittentes sur lesquelles il faut une transformation complète des réseaux, eh bien, nous arrivons au chiffre du marché de gros que vous indiquez et qui est absolument insupportable. Il faut donc enlever la politique européenne telle qu'elle est aujourd'hui et par ailleurs enlever le programme pluriannuel d'électricité qui baisse dans le principe de 75% à 50% l'électricité nucléaire, qui rajoute de l'électricité des renouvelables et qui conduit à ce dérèglement stupide, absurde, dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les écologistes continuent, politiques, continuent à raconter que il faut faire l'électricité des énergies renouvelables et que ça va être moins cher, parce que c'est moins cher, parce que c'est moins cher. Et aussi bien Jean-Covici que moi, qui sommes deux écologistes issus d'horizons différents, nous disons non, c'est absurde. L'écologie, ce n'est pas ça. L'écologie, c'est d'essayer de faire le moins possible de mal à l'environnement. Et avec les éoliennes et avec le solaire, avec les fermes solaires et les fermes éoliennes, y compris les fermes éoliennes en mer, nous faisons le mal à l'environnement et nous faisons le mal à la population parce que nous l'obligeons à prendre une électricité beaucoup plus chère. Alors ça,
Alors,
c'est
le monde.
l'électricité. Alors
Alors,
j'ai
le
pas
monde.
parlé. Alors il reste le gaz. Il reste le gaz. J'ai pas parlé du gaz. Alors le gaz a augmenté, a multiplié par 4. Bon, on a l'augmentation du gaz et c'est parce que nous avons des amis russes qui sont très gentils avec nous et qui nous donnent du gaz, mais au prix qu'ils ont envie de nous donner. Voilà. Et c'est le prix du gaz a augmenté.
Alors, le monde diplomatique a sorti le 12 novembre dernier, a publié un article, Le prix de l'énergie, une folie organisée, dans lequel ils parlent de la conséquence, enfin ils disent que c'est la conséquence en fait de 25 ans de dérégulation des marchés du gaz et de l'électricité, tout ça orchestré par Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un
Absolument.
mot?
Et il se trouve qu'ils ont raison, mais que Le Monde, le même journal, a fait la publicité de cette dérégulation pendant 25 ans aussi. Donc, pour la première fois, ils disent la vérité. Il ne
Il n'y a
fallait
que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. C'est
pas. Absolument. Et par conséquent, on peut dire que grâce à cet article, le monde n'est pas complètement imbécile. Voilà. Mais moi,
Alors,
j'espère qu'ils se rattrapent par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font des articles de nouveau en disant oui, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Monsieur X, Monsieur Y ont dit que c'était moins cher. L'énergie renouvelable, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Ils continuent à le faire encore. Mais disons que la réponse est claire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des fossiles est un problème. Le fait d'avoir du nucléaire n'en est pas un. Mais les écologistes politiques ne veulent pas de nucléaire. Et le fait de faire des renouvelables tels qu'ils sont aujourd'hui n'est pas la solution. De la même façon que le véhicule électrique, tout à l'heure, je le disais, n'est pas la solution, eh bien, l'éolien et le solaire en ferme, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas vrai.
Alors, Jérôme Flassayer revient de Volvo Trolls, revient sur la taxation de l'énergie et demande à quel schéma de taxation des nouvelles énergies de la mobilité devons-nous nous attendre? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il n'y aura plus d'essence, l'État va quand même perdre une manne conséquente.
Ben,
Donc,
il commence, ça commence déjà. C'est-à-dire que si jamais vous avez une voiture hybride et que vous arrêtez sur l'autoroute, vous apercevez que l'État commence déjà à augmenter le prix à la borne. Bon, et bien sûr, l'État a une manne céleste lui arrivant du pétrole depuis des années et va continuer à pomper l'argent sur la mobilité, c'est clair, et que donc ça ne changera rien. Au contraire, à mon avis, ça va plutôt augmenter le prix pour les automobilistes de passer du thermique à l'électricité. Et ceux qui gardent la voiture thermique vont être contents parce qu'ils vont avoir un prix inférieur.
alors, sachant que la fin du thermique est programmée pour 2035,
La
donc
fin du thermique. C'est pas la fin du thermique, c'est la fin
la
du
fin,
thermique. que vous pouvez acheter. Alors,
Qu'on peut acheter, non, non, mais tout à fait, mais enfin, il va y avoir quand même.
est-ce que vous pouvez acheter votre voiture en Chine? Si jamais j'ai envie d'avoir une voiture chinoise qui est thermique, est-ce que je peux l'acheter ou pas? Et si je l'achète par des amis qui sont dans un autre pays que le mien, est-ce que je peux prendre la plaque allemande et venir en France? Oui.
Oui, par contre, vous ne pourrez plus rentrer en ville avec l'instauration des ZFE.
Oui, je peux
Là,
cacher en disant que c'est une. Voilà. Enfin, je veux dire que tout ça conduit, vous voyez, à un dérèglement
non, mais
complet
tout à fait.
de la population. Et c'est. Disons qu'en prenant l'absurde de la situation, on voit que c'est impossible et qu'il va falloir changer cette réglementation.
Mais là où je voulais en venir quand même, c'est qu'avec une certaine, je relativise, généralisation du véhicule électrique, est-ce que, et l'abandon partiel du thermique, parce qu'il y a eu quand même un rétropédalage d'Emmanuel Macron après avoir fermé Fessenheim, il annonce la construction de SMR, de petits réacteurs modulaires. Est-ce
Mais
que.
il ne s'arrêtera pas là. Il sera obligé de faire des EPR, parce que le SMR, ce n'est pas du tout adapté à la France. Donc il va se mettre sur le nucléaire parce qu'il est obligé de se mettre sur le nucléaire. Il est obligé. Il n'a pas le
Ah oui,
choix.
ah ben j'allais vous le
Il
dire parce que est-ce que le réseau va
ne
tenir?
le
C'est pas
souhaite pas, mais
possible.
moi je lui dis, vous
Non,
n'avez pas le choix, vous serez forcé de mettre des EPR.
alors justement, parce que est-ce que le réseau pourrait tenir? C'est pas possible. On a déjà rouvert des centrales de charbon avec la fermeture de Fessenheim juste pour
En
chauffer.
Allemagne, en Allemagne.
Ah, chez nous aussi, en Bretagne, chez vous.
Non, non, la centrale de Cordemais en Bretagne, chez moi, dans l'Atlantique, elle est partiellement au charbon, partiellement au bois, elle a toujours été ouverte, et c'est la centrale qui permet aujourd'hui de dire que la Bretagne peut ne pas être dans le noir entre le 15 janvier et le 15 février. C'est la seule chance que nous ayons de ne pas être dans le noir, c'est ça. Mais si jamais nous n'avions pas Cordemais, nous serions en Bretagne dans le noir, c'est clair.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai une question. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la crise de l'énergie et de la politique énergétique de la France avec Loïc Le Floch-Prigent. Alors, pour en revenir aux SMR, qui ont été annoncés par Emmanuel Macron dans le plan France Relance 2030,
C'est un
bon,
produit
apparemment.
d'exportation. C'est un produit d'exportation. Ce n'est pas un produit pour la France. Non, mais alors on peut en faire un, on peut en faire un pour le démontrer qu'on est capable de le faire. Mais ce n'est pas un produit ce n'est pas un produit pour nous. Nous, on a un réseau et par conséquent, on a intérêt à avoir l'électricité la moins chère. Pourquoi prendre une électricité à 70 euros le mégawattheure si on en a une à 32? Ça n'a pas de sens. Donc ce n'est pas une solution pour nous. Alors, c'est comme ça.
Alors, on avait pourtant, on est quand même un pays d'excellence nucléaire.
Oui.
On avait un projet extraordinaire qui s'appelle le projet Astrid, qui a été abandonné en 2019 avec des réacteurs de quatrième génération qui, en plus, étaient, entre guillemets, écologiques, puisqu'ils recyclaient le plutonium et valorisaient l'uranium. Alors, la valorisation de l'uranium, c'était hallucinant, c'était 100 fois plus d'énergie que les réacteurs actuels. Alors,
Non, c'est pas ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est à partir des déchets des centrales actuelles, déchets sur lesquels les écologistes n'arrêtent pas de jouer du violoncelle, nous avions la technique qui s'appelait Superphénix. Superphénix a été arrêté par M. Jospin au moment où il est arrivé comme Premier ministre au temps de la cohabitation. On a redit que cette solution était la bonne et par conséquent, le réacteur à neutrons rapides est reparti avec le programme Astrid. Programme Astrid qui vient d'être arrêté par M. Macron. Bon, il n'est pas arrêté partout. Nos scientifiques, nos chercheurs sont les meilleurs du monde sur ce sujet des trois rapides et heureusement sont en train de nourrir les activités des Chinois, des Russes et des Américains pour que nous soyons prêts sur le trois rapide. Mais nous allons avoir, bien sûr, comme solution pour traiter les déchets, les réacteurs à neutrons rapides. Simplement, si on continue comme ça, nous les achèterons aux Russes, aux Chinois, aux Américains, alors que si jamais nous avions continué, nous serions en train de les vendre à ces différents pays. Voilà, c'est la différence. C'est ce qu'on appelle se
Alors,
tirer une balle dans le pied.
concrètement, l'annonce d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, ça n'apportera rien à la France, sinon, bon,
Enfin,
peut-être.
l'annonce, c'est l'annonce pour indiquer à Madame Pompili qu'il faut qu'elle dise que le nucléaire, c'est bien. Et c'est l'annonce préalable à dire on va faire des EPR en France, c'est clair.
Donc, vous pensez vraiment qu'on va s'orienter de nouveau? Enfin bon, voilà, ils ont enfin compris qu'on avait
Ah
besoin
ben,
du nucléaire.
ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas aujourd'hui garantir une électricité pour les Français. Et alors, est-ce qu'il faudra passer par une partie de la France dans le noir, dans le nord, mais pour l'instant, il prépare les effacements, c'est-à-dire la capacité pour l'industrie de ne pas utiliser l'électricité au moment du froid et payer grassement par le contribuable qui va payer plus cher son électricité pour payer les industriels qui effacent leur consommation à la période où, où le gouvernement le souhaite. C'est ça qu'on est en train de préparer. Mais disons que c'est hyper tendu et qu'il suffit qu'il fasse froid. Je ne sais pas s'il fera froid, je ne suis pas météorologiste.
Alors, on a évoqué rapidement le sujet tout à l'heure des énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire. Est-ce que vous pensez que ça peut faire partie, malgré tout, d'un mix énergétique?
Bien sûr.
Ou alors vous considérez que ce n'est pas du tout écologique comme, parce que bon, c'est quand même discutable, notamment l'éolien.
Ce que je conteste, moi, c'est les fermes. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'on va en mettre 60, 80, 100. Ensuite, il faut faire un grand câble pour se mettre au réseau. Et là, on dérègle complètement le réseau. Et je pense que l'éolien et le solaire sont des instruments du mix de circuit court, c'est-à-dire sur un espace déterminé, 10-15% de la consommation viendra de ce circuit court et ne déréglera pas l'ensemble du réseau européen. Et donc, aujourd'hui, le réseau européen est déréglé par les éoliennes de la Baltique en Allemagne. Donc, les Allemands, au moment où le vent souffle fort, sont obligés de non pas nous vendre leur électricité, mais nous la donner en nous donnant de l'argent en plus. C'est ça la réalité. Ils nous donnent de l'argent pour qu'on prenne leur électricité parce que ça peut foutre en l'air leur réseau. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé par le fait qu'on fasse des circuits courts et qu'on alimente l'électricité sur les circuits qui courent avec l'éolien. Donc, je ne suis pas contre les énergies renouvelables. Au contraire, je dis simplement la démarche industrielle qui est faite est une démarche stupide.
Alors, concrètement, pour vous, la politique énergétique de la France de demain pour qu'on redresse la situation, qu'on sorte de cette crise et qu'on développe notre économie, ce serait laquelle ? Est-ce que vous préconiseriez ?
Vous avez pris le mot, c'est-à-dire qu'on va être dans une économie mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir un mix énergétique électrique et nous allons avoir un mix également pour l'ensemble des mobilités entre les différentes sources possibles. Si jamais nous ne partons pas vers le mix, nous partons vers le déclin et le suicide collectif. Voilà, c'est tout. Mais c'est simple. Pour moi, c'est simple. Voilà. Et alors, d'autant plus que pendant le même temps, les progrès sur les batteries électriques ayant été faits essentiellement par les Chinois et les Coréens, nous nous retrouvons dépendants d'eux pour nos véhicules électriques et par conséquent, nous allons avoir une production de véhicules à partir de leurs composants et cette production va être chère. Et aujourd'hui, le véhicule électrique chinois sort à 3800 euros des usines, eh bien, nous allons l'avoir, c'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants, si nous continuons à dire « nous n'aurons que des véhicules électriques », eh bien, nos enfants et nos petits-enfants rouleront chinois, point. Voilà. Est-ce que c'est ça que nous voulons, avec 400 à 500 000 personnes dans les automobiles françaises et des millions en Europe, c'est ça que nous voulons, eh bien, la Commission européenne nous y conduit droit. Mais je pense qu'il faut défendre notre industrie. C'est pour ça que j'ai écrit le livre pour une France industrielle. Il faut rester dans une nation industrielle. Et rester une nation industrielle, c'est aussi rester une nation industrielle automobile. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'avenir de notre pays doive être d'acheter nos voitures uniquement en Chine à un prix défiant toute concurrence. Certes, avec 17 semaines de transport, mais si jamais il y a des stocks, on doit pouvoir s'en sortir si jamais on est chinois. Voilà. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite. Il n'y a pas d'autre solution que de revenir sur la politique énergétique nationale. C'était une erreur. Elle a été commise il y a 10 ans, au moment au 2012, lorsqu'on a dit on ferme Fessenheim, on va partir. Non, cette erreur a été commise. Il faut revenir sur cette erreur. Autrement, nous serons dans le noir.
Mais est-ce que ça n'a pas posé problème avec nos partenaires européens? Je pense notamment à l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg.
Oui, mais disons que faut savoir ce que nous voulons. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons sauver notre pays ou est-ce que nous voulons sauver l'Allemagne? Que l'Allemagne se sauve toute seule. L'Allemagne a commis des erreurs, elle est dans ses erreurs, elle n'a pas à nous faire payer ses erreurs. Voilà, nous avons commis nos erreurs aussi, mais elles ne sont pas aussi graves. Par conséquent, nous pouvons revenir. Voilà. Et si jamais l'Allemagne ne comprend pas que nous devons avoir une politique nationale énergétique et que pour cela, il faut sortir de l'Europe, nous n'aurons pas d'autre choix que de sortir de l'Europe. Mais je pense que l'Allemagne, si jamais on lui dit, est-ce que vous voulez qu'on sorte de l'Europe, nous, à cause de la politique énergétique, je pense que l'Allemagne cédera et dira, vous avez raison. Et que Madame l'Allemande qui est à la Commission va arrêter de nous casser les pieds pour ne pas parler d'autre chose en disant, le nucléaire, c'est pas bien, le nucléaire, c'est pas bien, le nucléaire, c'est pas bien. Si, le nucléaire est la chance de la France, il faut la jouer et rester à un niveau élevé de production nucléaire tout en faisant un mix électrique qui fait la part belle à l'hydroélectricité, au gaz et aux énergies renouvelables, mais en arrêtant ces abominations que sont les éoliennes en mer ancrées à 16 km de 16 km, c'est-à-dire la zone de pêche. Il faut arrêter de mettre des éoliennes ancrées, il faut mettre des éoliennes flottantes, mais pas des éoliennes ancrées, de manière à laisser les pêcheurs continuer à pêcher. Alors, ils sont en train de manifester parce que pour d'autres raisons, mais ils manifesteront en France pendant les années qui viennent, si jamais on continue à vouloir faire dans la zone de pêche des éoliennes en mer ancrées.
Merci beaucoup, Monsieur le Floch-Prigent, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir éclairé sur ce que devrait être la politique énergétique de la France. On le souhaite, j'espère que les candidats à l'élection présidentielle vous écouteront. Enfin, pas tous, ça c'est certain, mais...
Non, non, il y en a déjà qui ont dit qu'ils m'écouteraient pas, d'un certain côté, c'est clair, et qui ont envie de faire 100% renouvelable. Je ne
Ouais.
souhaite pas aux Français d'avoir 100% renouvelable parce qu'ils achèteront beaucoup de bougies. Comme j'ai fait en Afrique, puisque j'ai vécu quand même un certain nombre d'années en Afrique, et en Afrique, eh bien, il y a des délestages tous les jours, et il faut acheter des bougies ou acheter des petits générateurs à diesel ou à essence, de manière à avoir de l'électricité personnelle dans les endroits où on est. Voilà. Si c'est ça l'avenir de ces candidats, je leur souhaite bonne chance, pas avec moi.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir, Monsieur le Floch-Prigent.
Au revoir.